comment se donner toutes les chances d'obtenir une alternance ou un stage. Let's go. Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Vie d'étudiant. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, moi, me tient à cœur, qui est de trouver un stage ou une alternance. Et moi, je vais plus parler de mon expérience personnelle qui se trouve autour de l'alternance. Pourquoi ? Parce que j'ai eu, en 2 ans et demi, l'œil de celui qui doit être recruté, qui cherche une alternance. Et dernièrement, 2 ans et demi après, c'est moi qui ai recruté un alternant. Donc, ça me permet d'avoir l'œil 1 étudiant et l'œil du recruteur. Mais avant de commencer, je vais vous parler un peu de mon histoire, de quand j'ai cherché mon alternance. Comme pour beaucoup, j'ai eu pas mal de galères, pas mal de refus. C'était le début de l'année, nous on venait de sortir du Covid, donc on est arrivé, il n'y avait qu'une seule personne dans ma classe qui avait une alternance. Pas mal de galères jusqu'en décembre, je n'avais toujours pas au bout de 3 mois une alternance, ce qui était vraiment une galère. Je stoppe un processus de recrutement. Mon professeur qui me suivait à l'époque me dit « Mais pourquoi tu fais ça ?» En fait, moi, je cherchais vraiment à trouver quelque chose qui me plaisait. Et là, la difficulté, c'est que c'était finalement un recrutement où je me suis dit « Mais en fait, c'est pas ça que je veux faire. » Et c'était d'une certaine manière très dur pour moi de dire à ce moment-là « Bah, j'arrête, sachant que je n'avais rien. » Mais j'ai dit à mon prof « Oh, t'inquiète, je vais trouver. » Après ça, encore des galères. Je finis 2 fois 2e dans des recrutements, en plus face à des amis. Et là arrive le moment où nous sommes en janvier et je trouve de manière assez improbable mon alternance, et cette histoire je vous la raconterai en fin d'épisode. Tout ça pour dire que voilà, j'ai vraiment, comme beaucoup, aussi galéré, et donc je trouvais intéressant de pouvoir vous partager mes astuces que j'ai fait pendant ma recherche, et aussi les astuces côté recruteur, ce que j'ai pu à peu près voir d'un point de vue recruteur. Donc tout d'abord, mes astuces d'un point de vue de l'étudiant. Pour moi, la première chose à faire dans de nombreux domaines, après ça dépend bien sûr des domaines, et bien sûr aussi ces conseils ne tiennent qu'à moi. Tous les conseils que je vous ai donnés, c'est qu'un avis personnel. Ça peut changer forcément en fonction de qui recrute, de l'entreprise, tout ça. Mais pour moi, d'abord, le premier conseil, c'est d'être plutôt sur LinkedIn. Et d'ajouter des personnes qui sont dans votre domaine. Pourquoi ? Parce que même si ce n'est pas ces personnes-là que vous allez voir en contact, ces personnes-là vont peut-être partager des offres d'emploi, vont peut-être recruter un jour. Voilà, donc ça, c'est toujours bien d'avoir un réseau. Ou connaissent peut-être une personne qui cherche. Enfin voilà, c'est toujours quelque chose qui pourra servir. Mais par contre, c'est un truc qui se fait le plus tôt possible. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas au moment où vous en aurez besoin que vous allez commencer à le construire. Il faut le construire avant que vous en ayez besoin. Moi, par exemple, pour vous donner une petite astuce, moi, je travaille dans le domaine du sport. Et ce que j'avais fait à l'époque, c'est que tu peux mettre un petit message. Alors, sur le téléphone, ça ne se fait pas forcément, mais sur le PC, vous pouvez facilement mettre un message. Et vous envoyez à la personne, par exemple, voilà, j'ai vu que vous travaillez dans le domaine... Moi, j'ai fait ça. Hein. J'ai vu que vous travaillez, bonjour Michel, j'ai vu que vous travaillez dans le domaine du sport. Je serais heureux que nous soyons liés sur ce réseau professionnel. Voilà, c'est une phrase simple, mais qui montre qu'on voilà, on est liés d'une certaine manière. Et ça vous permet de créer des connexions. Même si vous ne connaissez pas encore la personne en vrai, ça vous permet de commencer à créer le réseau. Et vous verrez que dans mon anecdote, ça m'a servi pour trouver mon alternance. Et ça serait pour la fin. Ensuite, moi, ce que j'ai fait, après à vous de voir ce que vous en faites, mais j'ai créé un tableau Excel de suivi qui me permettait en fait de savoir où j'ai postulé, quand j'ai postulé. Voilà. J'ai aussi classé par rapport, ce qui peut être bien, c'est de classer aussi par typologie d'alternance, c'est-à-dire les tops pour moi, c'est ceux où tu veux absolument travailler dans cette boîte, ça c'est les tops, pour eux il faut tout donner. Ensuite tu as les ok, c'est-à-dire qu'en gros, moi je travaille dans le domaine du sport, ok c'est pas la boîte de mes rêves, mais ça reste quand même un domaine qui me plaît, que ça peut le faire. Et tu as les si je trouve rien d'autre en fait, c'est-à-dire qu'en gros c'est des alternances où ok c'est peut-être pas ce qui va te plaire, mais en même temps il faut que tu en trouves une. Déjà, si tu segmentes par ces 3 typologies, c'est une bonne chose parce que tu vas adapter ton discours et tes efforts en fonction de la typologie des offres. Je pense notamment à ceux qui disent, par exemple, j'ai envoyé 100 demandes, j'ai pas de retour. Ouais, mais la question, c'est les 100 demandes, elles ont été faites où, tu vois? Par exemple, si moi maintenant, je suis plus un profil qui peut bosser dans le commerce du sport, si je postule pour aller en banque, voilà, je peux postuler n'importe où, je peux postuler à la poste, en banque, j'en sais rien. Bah oui, ils vont peut-être pas me prendre parce que le profil ne correspond pas. Donc, la quantité, c'est une chose, mais je crois vraiment aussi à avoir d'une certaine manière la qualité pour optimiser tes chances. Le Excel, ce qui permet aussi, ça va être de faire le suivi et les relances. Pourquoi? Parce que souvent, on va te dire, par exemple, voilà, j'en sais rien, bah, fin de semaine prochaine ou dans 2 semaines, on pourra te donner une réponse. Bah, c'est bien de se noter la date, comme ça, au bout de 2 semaines, tac, qui te relance. Pareil, vous pouvez aussi vous mettre des dates automatiques. Moi, ce que j'ai fait par exemple, c'est que j'avais dit, je prends la date à laquelle j'ai postulé et j'avais une formule Excel qui me permettait de sortir une date 2 semaines après. Et du coup, ça me permettait de savoir, ok, moi je me disais, bah voilà, si j'ai pas de nouvelles au bout de 2 semaines, je relance et ça me permettait d'avoir ce suivi. L'autre conseil que je peux vous donner, c'est pour les tops, vraiment les 3-4 entreprises où vraiment vous dites, voilà, c'est vraiment là que j'ai envie d'aller. Personnaliser votre CV. Je prends par exemple la boîte où là où j'ai postulé, où je bosse maintenant. Moi, ce que j'avais fait, c'est que c'était une boîte dans le vélo. Et moi, mon CV de base, j'avais quelques expériences et j'avais notamment une expérience sur le BAFA. Et je me suis dit, mais en fait, ça va pas forcément les intéresser. Du coup, j'avais remplacé par. J'avais travaillé, je crois, au collège, j'avais fait une semaine dans un magasin de cycles. Mais du coup, ouais, j'avais ça, j'avais aussi travaillé chez Decathlon ou Rayon Cycle. Donc voilà, donc il y a des expériences comme ça, des petites expériences en fait que j'ai remplacées pour mettre des expériences autour du vélo parce que c'était une boîte de vélo. Alors j'aurais pu envoyer comme tout le monde et enlever les deux, trois expériences que j'avais dans le vélo. Mais même si c'était toute petite, ça permettait de montrer que j'avais un intérêt pour ce domaine-là. Donc vraiment, essayez de personnaliser par rapport à cela. Mais faites-le vraiment que pour le top, sinon c'est infernal. Si vous envoyez beaucoup de demandes, ça va vous faire beaucoup de travail. Mais pour les tops, vraiment personnalisez. Et enfin, se préparer pour l'entretien. C'est hyper important. J'en reparlerai après. Vous allez voir quelques exemples quand je parlais des astuces recruteurs. C'est important de se préparer pour montrer que vous avez compris ce que vous allez devoir faire, pouvoir poser des questions. Enfin voilà, c'est ça qui va vous permettre vraiment d'avoir de la matière pour l'entretien. Maintenant, passons aux astuces côté recruteur. Donc là, je vais vraiment vous parler de mon expérience. Là, j'ai recruté, là, sur les 2 derniers mois, j'ai recruté un stagiaire et un alternant. Et j'ai quasiment utilisé la même méthode. C'est-à-dire que moi, pour vous donner un peu l'exemple, c'est que voilà, j'ai les CV qui arrivent. Première sélection sur est-ce que le CV est intéressant ou pas. Parce qu'il y a des fois des CV qui n'ont rien à voir avec le domaine. Donc c'est compliqué d'aller plus loin. Donc ceux-là, ils sont directement triés. Ensuite, quand les profils sont intéressants, moi, ce que je faisais, c'est que je passe un appel. Des fois, c'est aussi les RH qui passent des appels en premier pour poser 2, 3 questions rapides pour revérifier des informations. Le rythme de l'alternance, est-ce que ça ne dérange pas la personne de bouger dans une autre région? Parce que des fois, sous ton alternance, on est beaucoup amené à bouger pour trouver une alternance qui peut faire sens. Et ensuite, il y avait un entretien, vraiment un entretien d'une heure. Et après, il y avait potentiellement aussi un entretien avec manager. Voilà, donc ça, c'est un peu un processus de recrutement classique, plusieurs étapes, voilà, où ça se réduit au fur et à mesure. Donc voilà un peu pour vous expliquer comment nous fonctionnait. Et maintenant, pour les astuces. Première astuce, le CV doit permettre, en fait, comme je disais avant, en 1 minute de savoir si le profil colle ou pas. Donc, pas hésiter à mettre des éléments, comme je disais avant, qui font sens par rapport au poste. C'est-à-dire que si vous êtes sur un poste, j'en sais rien, je sais pas moi, en business developer, donc vous allez devoir faire de la recherche, bah, essayez de mettre toutes vos petites expériences, par exemple, de la gestion d'Excel, vous avez dû négocier, vous étiez bénévole et vous avez dû faire de la négociation avec des partenaires, enfin, tous les éléments qui se ramènent à ce poste-là. Et en fait, ça, c'est plein de petits éléments. Même si des fois ils sont anecdotiques, qui vont faire tilt au recruteur. Ça, c'est vraiment le genre de truc parce que le recruteur, lui, il a ses petits critères et en fait, quand il va voir ces éléments-là, ça va faire tilt. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça marche. Pareil, je sais que, par exemple, l'école peut jouer beaucoup chez certains recruteurs. Moi, personnellement, ce n'est pas quelque chose que je regardais en premier parce qu'en soi, ce que je recherche, c'est une personne et c'est un profil. Et l'école, ça veut tout et rien dire. Alors, ça dépend bien sûr des écoles, mais ça veut quand même tout et rien dire parce que tu as du très bon, comme tu peux avoir du très mauvais en termes de profil dans de nombreuses écoles. Ouais. Et pareil pour, je dis école, mais université, c'est pareil. Tu peux avoir des très bons profils comme tu peux aussi avoir des profils qui te correspondent bien. Ensuite, la lettre de motivation. Alors là, c'est un grand débat. C'est faut-il faire ou non une lettre de motivation? Pour certains, c'est obligatoire. C'est-à-dire que ceux qui ne font pas une lettre de motivation, c'est next. Ils sont directement mis de côté. Moi, j'aurais plus tendance à ne pas regarder la lettre de motivation. Par contre, la lettre de motivation, bon, déjà, ça, c'est quand même un plus. C'est-à-dire que tu montres d'une certaine manière. Mais des fois, en fait, la lettre de motivation, qu'il soit ou pas, tu regardes le CV, tu vois que le profil t'intéresse. La lettre de motivation, elle fait moins, elle fait pas sens. Par contre, dans certains cas, là où je trouve intéressant, c'est quand le profil ne matche pas directement. Je prends par exemple, moi sur la boîte où je bosse, c'est du e-commerce. Imaginons la personne a travaillé que en magasin dans le vélo. Puis il y a l'aspect vélo, mais en même temps, il n'y a pas cette touche e-commerce. Bah, le fait de comprendre pourquoi est-ce que la personne postule, et là, la personne peut mettre, bon, sa lettre de motivation, voilà, donc en fait, ce que j'ai travaillé beaucoup dans les magasins, mais maintenant, moi, j'ai envie de changer, de découvrir de nouveaux trucs. Et donc là, en fait, la lettre de motivation permet de comprendre le cheminement de la personne, de pourquoi elle vient postuler. Et là, c'est intéressant. Ensuite, les astuces avant l'entretien. Je parlais de se préparer avant. C'est hyper important de se renseigner sur la fiche de poste pour être sûr d'avoir bien compris. Parce que ça va être clé pour la suite, pour que le recruteur comprenne bien que vous ayez compris. Et ne pas hésiter à poser des questions. Je prends un exemple tout bête. Moi, dans le titre, quand j'ai recruté pour un stage, dans le titre du poste, il y avait le mot marketplace. Parce que je travaillais dans le pôle marketplace. Et j'ai demandé tout simplement à ceux qui postulaient, bah, c'est quoi une marketplace? Alors ça, c'est un terme compliqué, mais aucun ne m'a posé la question et ils ont tous eu beaucoup de mal à répondre. Et en fait, je me dis, bon, c'est pas grave, c'est normal, enfin, c'est pas quelque chose qu'on apprend. Mais si vous avez des mots comme ça, où vous n'êtes pas sûr, ou alors vous dites, ah ouais, je pense que c'est ça, mais peut-être demander, voilà, dire au recruteur, écoutez, pour moi, j'avais compris ça, mais est-ce que c'est ça que vous entendez? Et rentrer dans cette discussion. Ça, c'est vraiment un truc. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important. Renseignez-vous sur la fiche de poste, essayez de la comprendre, et ensuite, posez des questions, mais préparez aussi vos questions, mais surtout. Ça va de la fiche de poste à comment ça s'organise dans l'entreprise, où sont les locaux. Voilà, ça peut être sur tout, mais préparez les questions que vous avez posées. Ensuite, on arrive maintenant, imaginons, voilà, vous êtes un profil, un bon profil, on vous a pris pour l'entretien, vous avez préparé votre entretien en amont. Arrive l'entretien. Je pense qu'un des points importants, c'est d'arriver à se mettre au même niveau que le recruteur. Dans le sens où il ne faut pas arriver en mode s'il vous plaît, j'ai besoin d'une alternance parce que ça, en fait, même si pour beaucoup on est là, on est dans la galère à essayer de trouver une alternance, le fait d'être en mode s'il vous plaît, je peux avoir une alternance et de. Bah, en fait, ça donne pas envie côté recruteur parce qu'on dit juste, ah, voilà, la personne, elle postule juste pour avoir une alternance et pas pour vraiment s'intégrer, vraiment comprendre les valeurs dans l'entreprise, vraiment entrer dans le projet de l'entreprise. Donc déjà, ne pas se mettre dans cette position de s'il vous plaît, j'ai besoin d'une alternance. Et l'autre point qui peut être, quand je dis au même niveau, c'est qu'il ne faut pas non plus se mettre au-dessus, c'est-à-dire, voilà, je pense que c'est acquis, j'ai le meilleur profil, c'est acquis. Ça, c'est quand même assez rare, mais voilà, c'est pour ça que le but, c'est d'arriver à trouver ce bon juste milieu entre je ne prie pas pour avoir une alternance et en même temps, je ne suis pas là à dire, ouais, c'est bon, c'est sûr, je vais l'avoir. Arriver à dire, voilà, à rester le plus au même niveau que le recruteur. Quelques exemples. Je voulais en parler. Quelques exemples de questions fortes que je trouve moi assez intéressantes. C'est par exemple de demander si je suis pris, qu'est-ce qui ferait que mon stage ou mon alternance est une réussite? Et ça, voilà, c'est aussi se mettre au même niveau que le recruteur, c'est-à-dire que vous rentrez dans une discussion. Et vous n'êtes pas là à dire, voilà, le recruteur pose des questions, c'est aussi ça, se mettre au même niveau. Il n'y a pas que le recruteur qui pose des questions. Sinon, en fait, c'est unilatéral. Mais si vous commencez à poser des questions, vous rentrez dans une discussion et vous vous mettez au même niveau que le recruteur. L'autre question, c'est quel serait pour vous le profil de rêve? Ça, pareil, pourquoi c'est intéressant? Parce que ça vous permet peut-être d'aller chercher des critères côté recruteur que vous n'auriez pas forcément dans la fiche de poste. Parce que des fois, dans la fiche de poste, on crée la fiche de poste, mais des fois, il y a des petits éléments comme ça. Moi, je sais que bon, j'avais une grille un peu d'éléments que j'avais besoin d'avoir pour le profil entre guillemets de rêve. Et ensuite, je mettais des plus ou des moins en fonction des profils que j'interviewais. Et ça, en fait, ça me permet d'aller chercher ça et de dire, OK, c'est là-dessus qu'il faut que j'appuie. Ok, je vois qu'il m'a dit que voilà, c'est ultra important cet élément. Ben voilà, quand j'aurai des prochains peut-être contacts avec lui ou si on en reparle, il faut que j'appuie là-dessus et de le rassurer sur ce point-là. Des petites erreurs maintenant. Pour moi, il y a des fois des petites phrases qui, côté recruteur, te mettent un doute. Je vous donne un exemple. Quand j'ai passé mes premiers coups de téléphone juste pour prendre deux, trois infos. J'appelle la personne et je lui dis voilà, est-ce que ça te dérange pas de te déplacer à nos bureaux? Parce qu'il n'était pas non plus à côté, mais il n'était pas non plus à l'autre bout de la France. Mais voilà, je demande. Et la personne me dit oui, ça dépend si l'entreprise paye une partie. Après, c'est vrai que si en vrai, les missions peuvent être intéressantes, peut-être que je ferai l'effort. Et en fait, cette phrase-là, je me suis dit. Bah, c'est pas possible. Parce que, en fait, la première réaction, c'était de se dire est-ce que l'entreprise va payer une partie des frais? En fait, c'est ça, c'est le genre de phrase. À la limite, tu vois ça à la fin quand c'est signé. Tu dis écoutez, est-ce que, voilà, je sais pas, est-ce que l'entreprise prend en charge ou tu poses la question. Mais le problème, c'est que ça, directement au premier contact que j'ai avec la personne, ça met tout de suite une mauvaise image du profil. Autre petit exemple, en entretien. On demanda à la personne, voilà, pourquoi es-tu motivé à nous rejoindre? Et le seul argument que la personne a sorti, c'était, ah, je connais quelqu'un qui travaille chez vous et tout. Et du coup, on était en fait, avec la RH avec qui j'ai fait les entretiens, enfin, entretien en débrief, on se dit, mais en fait, on n'avait pas l'impression que la personne était motivée parce qu'il n'y avait pas de. Certes, l'argument de je connais quelqu'un peut être un élément, mais alors il faut aller plus loin et il n'y a pas que ça en fait. C'est-à-dire qu'il y a d'autres trucs. Est-ce que, alors ça, est-ce que les valeurs te plaisent? Est-ce que le monde du lot te plaît? Enfin, j'en sais rien, il y a d'autres arguments. Et ça, d'ailleurs, la question pourquoi tu voudrais nous rejoindre, c'est une question qui, je pense, passe souvent. Donc, pareil, se préparer à ce genre de questions qui revient souvent. L'autre erreur, c'est peut-être des fois de se surestimer. Et de faire croire en disant voilà, oui, ça, je maîtrise à fond, tout ça. Je pense que d'un côté recruteur, trop en faire, ça peut aussi faire peur. Et des fois, l'honnêteté intellectuelle, c'est un bon moyen de rassurer le recruteur. Et pourquoi? Je donne un exemple tout bête, par exemple. Vous mettez dans votre CV, voilà, je maîtrise l'anglais. Bah, si la personne vous teste, et que c'est pas ça, voilà, ça peut tout de suite faire un flop. Après, ça ne veut pas dire, par exemple, moi je me souviens que j'avais par exemple quelqu'un, j'ai posé la question, est-ce que tu maîtrises Excel? La personne très honnête me dit non, écoutez, bah là, je maîtrise les petites bases, mais c'est vrai que les formules, les trucs un peu complexes, ça je maîtrise pas. Donc honnête, par contre, il me rassure en me disant, écoutez, moi j'ai fait caisse, j'ai quand même un esprit assez logique, donc en fait, même si je maîtrise pas maintenant, je peux apprendre. Et ça, c'est le genre de phrase qui, côté recruteur, dit, ah ouais, ok, bon, il maîtrise pas maintenant, mais en même temps, je peux lui apprendre, il a la logique, donc en vrai, ça va aller vite et c'est possible. Et donc, même s'il a été honnête, il a quand même réussi à rassurer d'une certaine partie, donc c'est ce genre de choses qui sont hyper importantes. Je reviens à l'anglais, ne pas être prêt. Alors, une erreur, c'est ne pas être prêt à se faire tester sur le CV. J'entends, vous mettez que vous maîtrisez certaines choses. Je prends l'exemple de l'anglais. Ou par exemple, vous mettez, voilà, j'ai C1, ou vous mettez, j'en sais rien, que vous maîtrisez tel ou tel outil, ou telle connaissance. Bah, préparez-vous à être testé. Moi, je sais que, par exemple, que l'anglais est un élément important dans le profil que je recrutais. Qui n'était pas non plus 100% obligatoire, mais qui était quand même un élément qui pouvait faire peser la balance. Et donc, bah, je demandais tout bêtement, bah voilà, je regardais les CV, j'ai écouté, est-ce que vous pouvez me parler de trois phrases, parler de votre dernier week-end en anglais, ou j'en sais rien. Et c'est vrai que certains étaient un peu déstabilisés en mode, ah mince, il faut que je parle anglais, j'étais pas prêt. Bah oui, mais en fait, le problème, c'est que c'est un élément qui est pourtant demandé. C'est-à-dire que j'avais mis aussi dans l'annonce que c'était l'anglais était un plus. Et en plus, les personnes mettent l'anglais dans le CV. Donc, pour moi, c'est important quand vous mettez quelque chose dans votre CV, c'est d'être prêt à pouvoir répondre, à montrer que vous maîtrisez ou pas. Enfin, souvent, quand on met des choses sur le CV, c'est qu'on maîtrise, mais c'est que vous maîtrisez ce que vous mettez dans votre CV. Parce que pareil, dire je maîtrise l'anglais parfait et on demande d'écrire deux, trois phases et derrière, paf, pas possible de sortir deux phrases, bah, côté recruteur, même si c'est peut-être sur le coup, c'est peut-être, voilà, vous n'avez pas les mots ou quoi, côté recruteur, ça fait un flop. Et ça fait perdre des points parce que du coup, on est déçu. Et en fait, la déception ne permet pas au recruteur de rester, côté recruteur, de rester rassuré. Ensuite, la prise de notes. Alors, la prise de notes, ça, c'est aussi un point que je voulais parler. C'est pas forcément quelque chose qui est obligatoire, je pense. C'est conseillé. Je pense que la prise de notes est surtout un vrai plus pour permettre de faire un mail de relance ou de montrer qu'on a bien compris le poste suite à l'entretien. De dire, voilà, moi, je sais qu'il y avait quelqu'un qui a postulé et qui était très rigoureux. La personne était très rigoureuse là-dessus. Elle prenait des notes pendant l'entretien. Juste après l'entretien, tac, elle envoie un mail. Voilà, bonjour. Donc moi, j'ai bien compris. Je suis toujours motivé. J'ai bien compris que vous attendez ça, 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 ça. Et ça, en fait, c'est hyper fort parce que ça relance, ça montre vraiment la motivation. Donc, la prise de notes peut servir à ça. Après, vous pouvez très bien sortir ce mail sans avoir de prise de notes si vous avez une bonne mémoire. Voilà. Après, l'autre effet aussi, c'est que ça, psychologiquement, je pense, ça peut aussi montrer quand vous notez que vous êtes vraiment dans l'écoute. C'est bête à dire, mais il y a beaucoup de non-verbal aussi qui joue en entretien, donc why not? Au final, moi je pense qu'il faut avoir deux choses en tête, deux éléments en tête. C'est d'abord, il faut arriver à montrer sa motivation, mais il faut savoir que tout compte, que ce soit le verbal, le non-verbal, les différents points de contact. Je vous prends l'exemple, la personne dont je vous parlais avant, la personne a postulé. Lettre de motivation, elle m'a contacté via LinkedIn. Ensuite, après l'entretien, une première relance par mail pour dire voilà, j'ai bien compris ce que je dois faire. J'avais dit à la personne voilà, fin de semaine, normalement, il devrait y avoir une réponse. Pas sûr, mais il y aura sûrement une réponse. Fin de semaine, je reçois un mail voilà, je reviens vers vous, je vous relance, je suis motivé. Et c'est plein de petits points de contact comme ça qui font revenir le profil aussi en tête. Et qui montre une certaine motivation. Donc en fait, chaque point de contact est hyper important et peut me permettre de montrer sa motivation. Voilà, donc chaque moment où vous touchez au recruteur, que ce soit en envoyant le CV, en envoyant un mail, en contactant sur LinkedIn, enfin tout, c'est un élément qui va montrer que vous êtes motivé. Ensuite, et vous m'avez entendu le dire, il faut rassurer le recruteur. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faut rassurer un recruteur? Parce qu'il faut savoir que quand tu es côté recruteur, on ne se rend peut-être pas compte de ça. Mais ça a un coût en attendant. Alors, il faut le savoir, ça a un coût. Donc, si tu recrutes quelqu'un et qui n'est pas forcément la personne que tu voulais, bah, tu sais que tu vas devoir payer entre guillemets pour rien. Ensuite, si tu as un profil qui n'est pas si bon que tu le pensais, tu vas sûrement devoir rattraper ce qu'il fait. Donc, en fait, tu prends un alternant pour couvrir plus de missions. Mais au final, si la personne n'est pas capable de le faire, tu vas devoir reprendre ses missions. Et donc, en fait, tu vas avoir plus de taf. Donc, il y a un vrai risque. Moi, par exemple, je sais que l'alternance, c'est notamment pour un lancement de projet. Donc, si je ne prends pas quelqu'un qui a un bon profil, derrière, le lancement de projet peut entre guillemets, foirer. Donc, voilà pourquoi il faut rassurer le recruteur, parce que c'est du temps aussi. Il y a un temps de recrutement. En du temps, ça coûte de l'argent. Faudra former la personne, donc c'est important de rassurer parce que c'est un investissement de différents moyens côté recruteur. Donc voilà pourquoi il faut le rassurer. Il faut le rassurer sur les missions, montrer que vous allez pouvoir prendre en main les missions, mais aussi d'un point de vue personnalité. Et ça, on sous-estime peut-être parce que à profil équivalent, voire à profil un peu en dessous, c'est-à-dire qu'imaginons j'ai le profil A, j'ai le profil B. Le profil B correspond un tout petit peu moins niveau mission. Par contre, si en termes de personnalité, ça fit super bien, que la personne, tu sens qu'elle a envie, voilà, l'autre personne qui est peut-être un peu plus de compétences va peut-être passer en deuxième parce qu'elle n'aura pas montré tant de motivation, parce que peut-être que ça ne va pas fitter avec l'équipe. Et ça, c'est hyper important. En fait, la personnalité fait beaucoup, car comme je le dis souvent, tu peux apprendre de nouvelles compétences à la personne recrutée, mais tu ne peux pas changer une personne. Donc c'est aussi ça, c'est rassurer l'équipe sur le fait que voilà, votre personnalité va réussir à fitter avec l'équipe. Et c'est pour ça aussi que d'une certaine manière, même si c'est dur à faire, le but, c'est pas de montrer entre lui le meilleur de soi-même ou surestimer soi-même en entretien, mais d'être le plus honnête possible, même en termes de personnalité, pour vraiment que côté recruteur, il n'y ait pas une déception après. Même pour vous, enfin, le but, c'est que dans les deux sens, chacun puisse apporter à l'autre. Petit insight avant de raconter mon anecdote, pour finir cet épisode, pourquoi ça prend du temps? Mais oui, parce que je pense que vous, comme moi, si vous cherchez une alternance, un stage, à l'époque, moi, je voyais, il y avait des semaines qui défilaient et je me dis, mais pourquoi ça prend autant de temps? En fait, il faut savoir que ça va dépendre de quand tu rentres déjà dans le processus de recrutement. Parce qu'en fait, quand on lance une offre en ligne, déjà, tu n'auras pas tous les CV qui auront côté recruteur, tu n'as pas tous les CV qui arrivent en même temps. C'est pas tu postes l'annonce et tu as 30 CV d'un coup. Non, non, ils vont arriver au fur et à mesure. Donc déjà, tu as un petit temps de j'ai besoin de quelques CV pour commencer à lancer le processus. Donc déjà là, tu as un peu de temps. Donc si tu es le premier à recruter, tu as déjà un peu de temps qui passe. Ensuite, potentiellement, pendant que tu vas passer les premiers appels, le premier entretien, tout ça, tu as peut-être un autre candidat qui lui va arriver plus tard et va lui bousculer un peu les choses. Par exemple, moi je sais que j'avais dit pour l'alternance, j'avais dit voilà, je passe les entretiens cette semaine. Et normalement, fin de semaine, sauf, voilà, j'avais dit bien sûr, c'était j'essaie fin de semaine, mais ça peut être la semaine d'après. Il s'avère que bah, dans cette semaine-là, tu as un super profil qui tombe. Et là, je dis, bah, je suis obligé de le faire passer en entretien, ce profil-là, parce que c'est un super bon profil. La personne était disponible que le lundi, bah, du coup, ça décale. C'est-à-dire que j'avais promis, alors en mettant des grands guillemets, hein, j'avais dit, voilà, je veux pas non plus vous prouver de 100%, mais je vais essayer. J'avais dit, on va essayer fin de semaine. Finalement, bah, ça décale parce que j'avais un entretien à passer le lundi. Parce que j'avais un profil qui arrivait. Moi, ça m'est arrivé pareil pour la personne en stage. J'avais fait toutes les sélections, tous les recrutements. Ça fait déjà deux semaines que c'était passé. Et là, tu as un profil qui arrive, peut-être la veille où j'allais dire, oh, c'est bon, on valide un profil. Et cette personne-là, on l'a vu en entretien. C'est la personne qui matchait et en fait en 2 jours elle était recrutée. Donc en fait c'est vrai que les longs timings des fois ça dépend juste de quand vous arrivez dans le processus de recrutement. Voilà, c'était juste pour expliquer des fois c'est vrai qu'on n'a pas forcément cette vision-là quand on cherche une alternance, surtout que cette attente est quand même très dure à vivre. Je l'ai vécu, mais c'était pour aussi pouvoir vous expliquer un peu tout ça. Bon allez, on finit comme je vous avais promis avec le comment j'ai atterri bah, en alternance dans la boîte dans laquelle je suis actuellement. En CDI d'ailleurs, j'ai pu faire la passe. D'ailleurs, ça me fait penser que quand vous cherchez une alternance, l'autre élément aussi important, ou même un stage de fin d'études, essayez si vous le pouvez bien sûr, mais essayez de trouver un stage ou une alternance où vous avez peut-être un potentiel CDD. Alors ça ne pourra jamais être sûr à 100%. Mais essayez de voir si vous avez moyen d'évoluer ensuite et que c'est pas juste voilà, on prend un alternant parce qu'on a besoin d'un alternant, et par contre, vous savez déjà que la boîte ne pourra pas prendre derrière. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour moi, c'est un vrai tremplin, l'alternance et un stage de fin d'année. C'est un vrai tremplin vers l'emploi ensuite. Donc c'est vrai que bien choisir son entreprise, c'est potentiellement se faciliter la chose pour ensuite avoir un CDI. Je ferme la parenthèse. Mon anecdote, ça a été une rapidité, j'étais en janvier donc j'en pouvais plus, j'arrivais plus à trouver. Là, tiens donc, je vois que le patron de la boîte, que j'avais ajouté à l'époque sur LinkedIn et que j'avais du coup dans mon réseau, a tout simplement liké un post. Je regarde, je vois, il like un post et c'est un post d'un membre de l'équipe qui disait on recrute une alternance. Donc comme il a liké ce post sur LinkedIn, quand tu likes, quand tu commentes, souvent tu peux voir ce que les gens ont liké ou commenté. Des fois, les personnes un peu populaires, en fait, ça remonte dans votre feed. Donc je vois cette annonce. Et là, un peu dépité, je me dis, on est quoi? On est samedi. Je me dis, un peu dépité, bon, vas-y, je vais ajouter la personne qui a fait ce poste. D'ailleurs, en fait, était en alternance à l'époque dans l'équipe. J'ajoute, mais sans mettre de message, sans rien. Et là, la personne me dit, ah, salut, je pense que tu es sûrement en train de. Enfin, tu m'as ajouté pour postuler, tout simplement. Et là, je me dis, ah, c'est cool, j'ai un contact avec quelqu'un qui connaît quelqu'un de l'équipe, donc c'est cool. Donc le gars, je lui dis, écoute, est-ce que tu pourrais me donner plus d'infos, tout ça? Et le gars me dit, écoute, demain, on s'appelle, on était dimanche, on s'appelle. Le gars était sur les pistes de ski, donc le gars, je l'appelle, il me donne deux, trois infos. Et à la fin, je lui dis, écoute, c'est quoi le next step, comment on peut faire? Et il me dit, écoute, demain, j'en parle à mon manager et je te redis. Le lundi soir, j'avais un entretien avec mon manager actuel par téléphone. Je me fais recontacter par les RH. Les RH qui me disent, écoute, tu peux quand on peut faire un entretien? Le mercredi, parce que le mardi, elle ne pouvait pas. Le mercredi, j'avais un entretien avec les RH. Les RH, donc à la fin de l'entretien, j'ai dit au RH, enfin la RH, je lui dis, écoute, voilà, c'est quoi les next steps? Est-ce qu'il y a encore un entretien? Parce que moi, on m'avait dit qu'il y avait potentiellement encore un entretien avec quelqu'un au-dessus. Elle me dit, ah non, c'est bon pour toi, t'es pris. Donc je me dis, c'est-à-dire que j'ai galéré pendant des semaines, et là, en 4 jours, j'avais trouvé. Donc ça, c'est pour ça que, morale de l'histoire, ne jamais perdre espoir. Et surtout, et c'est ce qui m'a aussi fait galérer à l'époque, n'ayez pas peur d'aller au-delà de là où vous habitez. Voilà, donc moi je suis strasbourgeois à la base. J'étais recruté sur les bureaux près de Paris. Maintenant, on m'a offert une opportunité de descendre dans les bureaux qui ont ouvert dans le sud, dans cette entreprise-là. Voilà, à la base, je voulais rester pas loin et finalement, bah, c'est en osant aussi et en étant aussi un peu poussé pour aller plus loin que j'ai pu avoir cette opportunité-là, être dans le sud et maintenant, enfin avoir un job stable dans l'entreprise. Voilà, c'était la petite anecdote. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez besoin de conseils ou si vous voulez par rapport à ce sujet, parce que j'adore ce sujet. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Antoine Rossignon sur LinkedIn, vous trouvez facilement. Voilà, moi je pourrais toujours vous aider. On peut aussi se connecter sur ce réseau-là. Donc voilà. En tout cas, moi j'étais vraiment content de pouvoir faire cet épisode, pouvoir vous partager un peu tout ça parce que je trouve qu'il y a vraiment des choses à faire. Et voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter soit sur LinkedIn, soit sur Instagram. Je suis disponible pour parler de ces sujets. Allez, à très vite.